Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer sur la foi. Je vous rappelle qu'on étudie les différents types de foi. Et on essaye vraiment de faire un tour, je dirais, de ce qu'est la foi, de pourquoi Dieu nous veut qu'on marche dans la foi.
Et
notre texte de référence, c'est Hébreux 11, verset 6, je vous le rappelle, où clairement il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. » Donc nous avons vu que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Ce ne sont pas nos pleurs, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos jeûnes, ce
ne
sont pas nos plaintes, mais c'est ta foi. Donc si tu apprends à marcher dans la foi, tu vas apprendre à plaire à Dieu. Donc dis, je vais apprendre à marcher dans la foi.
Je vais apprendre à marcher dans la foi.
Et je vais apprendre à plaire à mon Dieu.
Je vais apprendre à plaire à mon Dieu.
Amen.
Amen.
C'est important de comprendre ça. Vous savez, la Bible nous parle d'apprendre à reconnaître les choses qui plaisent à Dieu. Et une de ces choses qui plaisent à Dieu, qui plaît à Dieu, eh bien, en fait, c'est de marcher dans la foi. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez que la foi est un sujet central. On voit que Abel a amené par la foi un sacrifice. On voit que Noé a marché par la foi. Enoch a marché par la foi. Abraham a marché par la foi. Moïse a marché par la foi. David a marché par la foi. En fait, tous les grands personnages de l'Ancien Testament, ils ont marché par la foi. Ce sont devenus des héros qu'on trouve dans le chapitre 11 d'Hébreux. Parce qu'ils ont marché par la foi. Et que par la foi, ils ont été là où personne d'autre n'avait été. En tout cas, dans leur génération. C'est pour ça que la foi, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Moi, j'ai déjà étudié la foi et j'ai envie de la réétudier complètement, de A jusqu'à Z. Parce qu'on apprend toujours des choses dans la foi. Jésus était impressionné par la foi. La foi du centenier. La foi de cette femme qui est arrivée, qui avait cette perte de sang. La foi des lépreux qui disent, Seigneur, guéris-nous. Et ces lépreux, effectivement, Jésus leur dit qu'il soit fait selon votre foi.
Et
effectivement, ils voient un résultat. Donc, sans la foi, ce n'est pas possible de lui plaire. Ne t'approche pas de Dieu par la prière sans la foi. Tu ne lui plairas pas. Par contre, si tu apprends à marcher dans la foi, là, tu vas commencer à toucher le surnaturel.
Et
c'est là où d'un seul coup, Dieu va t'élever par sa puissance. Et tu vas commencer à voir des choses que tu n'auras jamais vues dans ta vie spirituelle. Alors, on a vu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et on a vu que ça, en fait, Dieu existe, c'est-à-dire que Dieu est capable d'agir dans nos vies, c'est ça que ça veut dire. Pas seulement croire qu'il y a un Dieu, c'est pas seulement ça. Parce que vous pouvez faire des sondages, beaucoup de gens sur cette terre croient qu'il y a un Dieu.
kuko ugiye kubiraba benshi baribaza barizera ko hari
Imana. Mais là, c'est beaucoup plus profond dans ce verset.
Ariko muri uyu murongo ho ni ibintu bishika
kuri gusumbaho. C'est vraiment être persuadé que Dieu est capable d'agir dans ta vie.
Nuko ba wemejwe ngo Imana irashobora gukora mu buzima bwawe.
Mais je vous ai montré que Dieu utilise cette foi, c'est la foi d'essence.
Ukora no kwizera kw'ibiboneka.
Souvent, quelqu'un va prier pour nous. On va voir que Dieu peut agir d'une façon tangible dans nos vies.
Ukabona Imana irakoze mu buzima bwawe mu buryo bufatika.
Et puis quelques temps après, on va se donner au Seigneur.
Hama munyumukihana.
Ou alors quand tu es nouveau chrétien, tu as besoin de la prière, tu
ne
sais pas encore motiver ta foi, et qu'est-ce qu'il se passe? Quelqu'un prie pour toi et hop, tu vois le résultat. Et tout ça c'est bien, mais c'est le début. Et
ce n'est
pas avec la foi d'essence, la foi de Thomas,
qu'on
peut aller loin.
Gushobora kugushikana kure.
Il va falloir qu'on ait notre propre foi individuellement.
Biragusaba ngo nugire ukwizera kwiwawe.
Faut que tu te développes dans la foi personnellement.
Wikuze mu kwizera ubwawe.
Ce qui d'ailleurs sera très avantageux quand tu seras quelqu'un aussi qui va marcher dans la foi, avec quelqu'un qui va marcher dans la foi.
Bikaba na byiza yo uri kumwe n'umuntu agendera mu kwizera.
Parce qu'à ce moment-là, ça sera très facile de croire les mêmes choses, de parler les mêmes choses et d'aller dans une direction pour voir la main de Dieu. Parce que vous savez, trop de gens avec qui on prie n'ont pas la foi. Et des fois, on ne voit pas les résultats à cause de ça. Souvent, je dirais. Donc, on a vu qu'il est le rémunérateur aussi de ceux qui le cherchent. Dieu va rémunérer ta foi, salarier ta foi. Donc nous avons vu bien des choses sur la foi, je ne vais pas tout résumer. Mais je vous ai montré que la foi vient d'où? De la parole, non pas en priant.
Ne
priez pas pour la foi. Mais dans votre esprit, dans votre nature spirituelle, vous avez une capacité surnaturelle de créer la foi. D'ailleurs, on va découvrir ce soir qu'il y a un dépôt de foi en nous déjà. On va en parler tout à l'heure. Mais il faut que vous compreniez que votre esprit, pas votre tête, votre esprit, votre cœur, a cette capacité surnaturelle à créer la foi. Nous avons parlé des visions et la foi. C'est très important. Nous avons découvert que vraiment il nous faut une vision, savoir où on va. Passer du temps à méditer, à s'imaginer, à s'environner de la parole de Dieu et de ce que Dieu veut pour nous. C'est ce qui vous amènera toujours à aller de l'avant. Ne soyez pas des gens statiques, c'est-à-dire qui ne bougent pas. Mais soyez toujours en mouvement. Toujours plus haut, toujours plus loin. Quand vous passez une étape, dites Seigneur, merci, mais je l'avais déjà vu il y a longtemps. Mais Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine étape. Seigneur, où est-ce qu'on va? La prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, ensuite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va passionner votre vie. Sinon, votre vie sera monotone. Votre vie sera statique. Vous
ne
bougerez pas. Vous tournerez en rond. Donc, nous avons découvert tous ces principes. Alors, je vais pas revenir sur beaucoup de choses, parce que sinon, il y a trop de choses. Maintenant, on en était à 1
Timothée 6:12.
Et nous allons relire ce texte. Et nous allons continuer dans les obstacles à notre foi.
1
Timothée 6:12 nous dit, Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Alors, combat le bon combat de la foi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils combattent spirituellement. Mais très souvent, ils placent mal leur combat. Parce que le vrai seul combat que tu as à mener, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire d'amener les choses à la réalité. Tu n'as pas à combattre le diable directement parce que qui es-tu pour combattre le diable? Les gens qui disent je vais combattre le diable. On va se battre avec le diable. Non,
tu
n'as pas besoin de faire ça.
Parce
que Jésus l'a déjà dépouillé. Maintenant, par contre, le combat de ta foi, c'est de faire appliquer tes droits. Parce que tu es héritier en
Christ.
Donc il faut que tu fasses appliquer tes droits. Ce n'est pas les mêmes choses. Tu ne te bagarres pas pour acquérir des droits.
Vous
voyez, souvent, les gens, par exemple, quand des populations sont malmenées, elles vont se bagarrer pour acquérir des droits. Des fois, ils font des grèves, des fois, il y a même des guerres, etc., pour acquérir des droits. Mais toi, tu n'as pas besoin. Jésus a déjà combattu pour toi. La seule chose qu'il va falloir que tu apprennes, c'est par la foi, faire appliquer tes droits.
Ce
n'est pas la même chose. Sinon, tu fais un mauvais combat. Tu fais appliquer tes droits. C'est-à-dire qu'en Christ, tu as des droits et tu amènes la loi à être appliquée, la loi divine dans ta vie. C'est beaucoup plus simple de voir les choses comme ça parce que ce sont vraiment comme ça que Dieu veut qu'on voit les choses. Trop de gens ont un combat qui est déplacé. Faire appliquer tes droits, c'est faire fuir l'ennemi au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de vaincre l'ennemi, mais tu as à lui ordonner de partir. Et il doit obéir. Donc tu fais appliquer la loi. Tu fais appliquer tes droits.
Vous
voyez la différence entre les deux. Parce que beaucoup de gens placent mal leur combat.
Et
c'est pour ça que Paul a dit combat le bon combat. Parce que je vous dis, beaucoup de gens sont dans le mauvais combat. Et c'est pour ça qu'ils sont là en train de se bagarrer contre leur truc. Plutôt simplement de comprendre comment ils doivent faire appliquer la loi. Et il faut savoir faire appliquer la loi. Donc combat le bon combat de la foi. Il y a un combat dans la foi. C'est le combat contre les circonstances. Et je vous ai montré qu'il y a des choses dans lesquelles, dans votre vie, vous devez, je dirais, vous devez guérir, vous devez être restauré. Parce que, effectivement, nous venons d'une vie de péché. Donc, il y a des conséquences. On a été pardonné du péché. Et on a été formé par le monde. On a accepté des choses parce qu'on était dans le monde. On a été peut-être très gravement dans certains péchés qui nous ont amenés à tomber malades. Ou il y a des choses qu'on a acceptées, des mentalités du monde qu'on a acceptées pour la pauvreté.
Ou on est
quelqu'un qui avons été forgés dans un caractère qui est extrêmement mauvais. Et tout ça, il va falloir que ça change, qu'on soit transformé. Donc il y a cette période-là dans ta vie où ces montagnes doivent être écartées de ta vie. Et tu dois être transformé. Mais aussi, ta foi va te servir à relever des défis. Parce que je vous rappelle que les gens qui sont toujours en train de dire 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, après avoir reçu Jésus, des gens qui sont constamment en train de dire « Ah, c'est dur, ah, c'est les combats, ah, c'est les combats », ils ont un problème de foi. Ou alors ils combattent le mauvais combat. Et on rencontre beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Ils sont là, ils résolvent tous leurs problèmes. Pourtant ils prient, pourtant ils viennent à l'église, pourtant ils lisent leur Bible, vous pouvez même les former dans la parole, mais ils n'ont pas acquis la foi, ils ne combattent pas le bon combat de la foi. Si tu combats le bon combat de la foi, tu vas voir obligatoirement tes situations changer. Tu vas voir des transformations. Tu vas voir des défis relevés. Tu vas voir des visions s'accomplir. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
C'est important ce que je vous dis, frères et sœurs. Parce que je veux que vous alliez loin. Je veux que vous soyez inspirés. Je veux que vous ayez de grandes visions pour vous. Mais que vous sachiez aussi marcher étape après étape. Parce que je veux que vous soyez des transformateurs de situations. Non pas des gens qui subissaient les situations. Mais si vous voyez un problème, que vous sachiez dire « Ah, moi je connais la solution. » Et je vais apporter la solution. Et tu transformes les problèmes. Et tu amènes les solutions divines. divine aux problèmes humains. Donc nous voyons donc aussi avec ce texte qu'il y a des ennemis de notre foi. Et les ennemis de notre foi, nous sommes en train d'en étudier un certain nombre. Nous avons vu d'abord, premier ennemi de notre foi, c'est de ne pas agir sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit et qui ne veut pas libérer sa langue. Quelqu'un qui veut être guéri, qui confesse tout le temps qu'il est malade. Quelqu'un qui veut prospérer et qui ne veut jamais donner au Seigneur. Ce sont de simples exemples que je vous donne ici. Donc c'est des gens qui n'agissent pas sur la parole. C'est des gens qui veulent d'abord voir le résultat avant de croire. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois pratiquer la parole. Et pratiquer la parole va te demander de la foi. Va te demander de marcher dans la foi. Parce que dans la foi, nous faisons des actions conformes aux résultats. Dans la foi, tu agis comme si c'était fait. Tu agis comme si tu étais déjà dans le résultat, parce que tu te vois avec le résultat. Tu sais que tu ne peux pas échouer. Quand tu es dans la foi, l'échec n'existe pas. Par contre, quand tu n'es pas dans la foi, là, l'échec existe. Et beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils veulent voir Dieu transformer leur situation, mais ils ne veulent pas pratiquer la parole. Ça ne marche pas. Moi, je vois des gens, souvent, ils veulent être à l'institut, ils sont diplômés, etc., mais ils
ne
pratiquent pas la parole. Et franchement, c'est dommage. Quand tu montes à la connaissance, tu dois te mettre en pratique la parole. Maintenant, Dieu n'a pas dit que ce serait facile, forcément, de mettre sa parole en pratique partout. Parce que la parole de Dieu va s'opposer à tes circonstances. Donc tu dois marcher dans la parole, et des fois tu ne vois pas le résultat tout de suite. Ensuite, je vous ai montré qu'il faut laisser son passé derrière soi. Les gens, un obstacle, c'est des gens qui ne laissent pas leur passé derrière eux. Ton passé sera toujours un ennemi par rapport aux visions divines. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ce que Dieu nous appelle à faire,
et bien
ce sera l'opposé souvent d'où tu viens. Et ça va, si tu vis dans ton passé, tu ne pourras jamais ouvrir ton futur. Tu ne pourras jamais ouvrir ta destinée. Dieu pourra te parler 10 fois, tu n'y arriveras pas. Donc ne t'occupe pas de ton passé, mais regarde toujours devant. Je vous rappelle que Dieu n'a pas de marche arrière. Il a toujours des marches avant, des vitesses pour aller en avant. C'est lui qui veut que nous allions toujours de l'avant. Dieu ne regarde jamais derrière, il regarde toujours devant. Il veut que tu regardes devant toi aussi. Ensuite, nous avons vu l'incrédulité. Et nous avons vu que l'incrédulité a 2 sources. La première source, c'est bien évidemment le manque de connaissance. Je ne peux pas croire quelque chose dont je ne sais pertinemment pas que ça existe. Si je ne sais pas que Jésus m'a légalement racheté de la maladie, j'aurais énormément de mal à entrer dans la guérison divine. Et si quelqu'un commence à me polluer au début de ma vie chrétienne, en disant non, Dieu ne guérit pas toujours,
et
bien je ne pourrais pas y entrer. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est la rébellion. Il y a des gens qui sont nés de nouveau mais qui sont rebelles à la parole de Dieu. Et ça, on en trouve pas mal. Et on est très très souvent confronté à ce genre de personnes qui disent oui, je suis d'accord, mais. Oui, je suis d'accord, mais. Si tu commences à mettre un mais sur la parole, ça veut dire que tu es rebelle. Alors maintenant, on va voir Un autre obstacle, c'est les on-dit, c'est-à-dire ce que les autres vont dire de nous. Et on va regarder un texte dans Luc chapitre 8. Et c'est la parabole du semeur. Je vais vous montrer les ennemis de votre foi et particulièrement quand les gens commencent à s'opposer à votre foi et à vous-même. Ça, c'est un ennemi qui est terrible. Ça va être la peur des autres, ce que les gens disent sur toi. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mon patron va dire? Qu'est-ce que ma fiancée va dire? Etc. Et ça, c'est un obstacle terrible pour certaines personnes. La peur des autres. Être paralysé sur ce que les autres vont dire. Alors, la parabole du semeur, je vous la résume brièvement parce que je ne veux pas l'étudier ce soir, ça serait beaucoup trop long. Mais en fait, Jésus, donne une parabole sur la semence qui est la parole de Dieu. Et je vous rappelle que la parole de Dieu et la foi sont liées. Parce que nous savons que la foi vient de la parole de Dieu. De l'écoute de la parole de Dieu. Et Jésus nous donne un semeur sans pour semer, il sème une semence, nous savons c'est la parole. Et ça va tomber sur quatre types de terre. Le premier type de terre, c'est quoi? Et bien, c'est le long du chemin. Et cette parole va mourir. C'est-à-dire, la semence ne peut pas pousser, c'est la parole qui ne peut pas pousser dans le cœur d'une personne. C'est l'incrédule. Et nous avons vu les sources de l'incrédulité. Ensuite, il y a le semeur va semer et il va semer sur une couche de terre, mais en dessous, il y a des pierres. Et c'est ça que nous allons étudier ce soir. En fait, la parole est semée à ce moment-là.
Et
nous allons voir que les gens reçoivent cette parole avec joie. Mais en dessous de cette petite couche de terre, il y a de la pierre. Et regardez ce que Jésus va dire. Juste au verset 13, ceux qui sont sur le roc où il y a de la terre en dessous, bien sûr, au-dessus, pardon, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, vous voyez, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps, regardez, donc ils ont la foi pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Donc ici, Jésus explique bien, il y a un moment où ces gens accrochent leur foi quelque part. C'est souvent les gens qui sont très excités. Vous savez, des fois, il y a des prédicateurs qui font sauter toute une foule en l'air.
Et
les gens ressortent, ah, alléluia, le serment était bon, alléluia. Ils sont très excités. Ça, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce que les gens vont mettre en pratique de ce qu'ils ont
fait.
Qu'est-ce que ça va produire à long terme? Parce que vous avez des gens qui sont court terme, des gens moyen terme et des gens long terme. Vous savez, les gens court terme, c'est les gens, tout le temps, ils sont là, ils disent, ah, ça m'intéresse. Ils écoutent, ah, wow, je ne connaissais pas une connaissance de la parole. Mais il
n'y
a rien. Vous regardez, au bout d'un certain temps, il
n'y
a plus rien. Les gens moyen terme, on sent que ça commence à produire du fruit. Mais les gens long terme, c'est des gens qui veulent vraiment persévérer dans la parole. Et qui sont décidés jusqu'au bout de voir la parole agir dans leur
vie.
De voir leur foi percer les pires circonstances. Là, ces gens-là vont croire pour un temps. Pourquoi? Parce que Jésus va nous parler des preuves. Et quand on regarde le passage parallèle dans Matthieu 13, Jésus va nous donner un peu plus à propos de ces gens qui croient pour un temps. Regardons ensemble à partir du verset 20
kuva ku murongo wa 20
de Matthieu 13.
Matthieu 13.
Matthieu 13, verset 20.
Murongo wa 20, Matthieu 13.
Il est dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt il la reçoit avec joie. C'est exactement la même chose qu'on voit dans Luc, ce qu'on a lu tout à l'heure.
Verset 21,
mais il n'a pas de racine en lui-même. Là, vous vous rappelez, Luc nous dit, il croit pour un temps. Donc ça veut dire qu'il a de la foi qui commence à germer, mais cette foi va rencontrer des ennemis. Et finalement, le résultat va être quoi? Que c'est les ennemis de la foi de cette personne qui vont prédominer dans sa vie. Et souvent, nous pouvons commencer à avoir la foi pour quelque chose, mais la Bible nous montre clairement qu'il y a des gens qui croient pour un temps et qui après ont un résultat négatif, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'échec. Et là, Jésus va nous expliquer pourquoi.
Et
il n'a pas de racine au milieu, il manque de persistance. Et regardez, dès que survient une tribulation, Jésus parlait d'épreuves dans Luc chapitre 8. Mais là, il parle de tribulation et de persécution à cause de la parole.
Tribulation,
qu'est-ce que c'est? Ce sont des pressions. Ces pressions viennent de qui? Elles viennent de personnes, de gens. De gens qui font des pressions sur la personne qui croit. Sur la personne qui a la foi.
Et
là, les persécutions. Dans le mot persécution, il y a une idée de poursuivre quelqu'un. En fait, de le détruire. D'essayer en fait de le mettre hors d'état de faire ce qu'il veut faire. Une persécution, c'est de tout faire jusqu'à même la destruction pour qu'une personne n'arrive pas à ses fins. C'est-à-dire qu'on empêchera par tous les moyens, même jusqu'à la mort, qu'une personne fasse quelque chose qui déplaît peut-être à quelqu'un ou à un groupe de gens ou à un gouvernement ou toutes sortes de choses. Donc en fait, l'idée c'est quoi ici? C'est que toujours ce sont des gens. Bien sûr, les vraies persécutions viennent d'esprits sataniques qui agissent au travers des gens. C'est l'influence invisible du monde invisible qui vient et qui anime des gens, qui influence des gens pour empêcher le royaume de Dieu de se manifester. Et souvent ça se passe par les gens. Le diable utilise des personnes pour essayer d'empêcher le royaume de Dieu d'avancer. On va voir quelques exemples. Jean chapitre 3. On va se poser une question dans Jean chapitre 3. Nous connaissons ce chapitre, c'est le chapitre de la nouvelle naissance. Il est dit, verset 1, « Il y avait parmi les pharisiens un chef des juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit... »
Vas-y, c'est bon.
Pourquoi est-ce que, à votre avis, Nicodème est venu de nuit voir Jésus? Vous
n'avez
jamais posé cette question? C'est très simple. C'est parce que Nicodème était parmi les pharisiens et il avait peur de qui? De ses amis pharisiens. Sur le camp, dira-t-on. Non, ce Jésus est mauvais. Ce Jésus est mauvais.
Yesu ni mubi.
Donc, personne ne va faire quoi que ce soit auprès de lui.
Au contraire,
on va tout faire pour l'arrêter. Mais Nicodème, lui, il s'est faufilé quand ? La nuit. Parce qu'il avait peur de ses amis. C'est pour ça qu'il a vu, été voir Jésus de nuit. Il n'a pas été voir Jésus de nuit parce que Jésus n'était pas disponible. C'est parce qu'il avait peur du qu'en dira-t-on. Cet homme avait peur des autres. Regardons Jean chapitre 7, verset 13. Jean 7, 13, il est dit « Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. »
Or,
ils avaient entendu tout ce que Jésus faisait. Ils avaient entendu tous les miracles, toutes les bonnes choses excellentes que Jésus avait faites. Le peuple juif avait entendu le Messie partout. Jésus allait de ville en village. Il a été partout. Il a fait du bien. Il a libéré les démoniaques. Il a guéri les malades. Il a fait les miracles de provision. Les foules entières ont été bénies par son ministère. Mais à Jérusalem, le fief des pharisiens, le quartier, eh bien, là, ils étaient beaucoup plus forts. Ils pouvaient facilement maîtriser les gens qui allaient vers Jésus. Et les gens n'osaient pas parler ouvertement de Jésus. Parce qu'ils avaient peur d'avoir quoi ? Des problèmes. Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas des gens de conviction, des gens de conviction, la peur de l'homme paralysera votre foi. La peur de l'homme vous empêchera d'avancer. Au moment où vous voulez aller de l'avant, vous allez voir ces gens-là qui vont se pointer et qui vont vous empêcher d'aller dans la foi et de voir votre miracle, de voir votre bénédiction. Le quand dira-t-on ? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Et si jamais j'échoue, comment les gens vont me considérer ? Ne mets jamais cela dans ta tête. Empêche-toi de penser ce genre de choses. Tu dois être quelqu'un de conviction. Les gens de conviction, ce sont des gens de foi. Les gens qui ne savent pas où ils vont. Qui essaye d'être prudent, qui essaye toujours de faire comme si, en fait, vraiment, Jésus ne les intéressait pas. Ou bon, un peu Jésus, mais pas plus. Qui ne sont pas capables de parler la parole de Dieu au milieu des mauvaises circonstances. Parce qu'ils ont peur des autres. Et bien, ces gens-là ne vont pas loin. Dans Jean chapitre 9,
Yohana igice cy'icyenda,
Jésus va guérir un aveugle-né.
Yes, akiza umuntu yavutse ari impumyi.
Et dans ce passage,
muri iki gice,
nous allons voir combien
turabona kangahe
les gens avaient peur des juifs religieux.
Ingene abantu batinya abayuda b'abanyedini.
Il est dit au verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revient, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était mendiant disaient... N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Et lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue qui me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais pas. Effectivement, parce qu'il n'avait pas vu Jésus. L'aveugle ne voyait pas Jésus. Il l'a vu qu'après. Jésus est venu le rencontrer qu'après. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi que dis-tu de lui? Qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Regardez bien les parents maintenant. Ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Regardez bien le verset 21. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord que si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi les parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Imaginez-vous un peu, des parents qui ont un fils. Un fils, excusez-moi l'expression, mais qui vit comme un chien, comme un mendiant, assis par terre en train de faire demander. Quelle honte! Imaginez, vous avez un fils et votre fils est dans la rue, c'est un démuni, il est aveugle de naissance et il c'est un mendiant, il vit de mendicité. C'est horrible d'avoir ça. C'est une tragédie pour une famille. Jésus rencontre cet aveugle. Et d'un seul coup, il le guérit instantanément. Et les parents, parce qu'ils ont peur d'être exclus de la synagogue, on ne sait pas. Demandez-lui, il est assez grand pour répondre. Mais c'est absolument horrible, ça. Je
ne
sais pas, Jésus a transformé instantanément la vie de leur fils. Leur fils va pouvoir avoir enfin une vie normale. Alors que peut-être des dizaines de milliers de fois, les parents disaient, oh vraiment, on n'a pas de chance d'avoir un fils qui est comme ça, qu'est-ce qu'on a fait?
Et
d'un seul coup, Jésus fait ce miracle.
Oh,
je ne sais pas, mais on aurait dû avoir les parents qui auraient dû sauter en l'air de joie. Et on aurait dû leur dire, peut-être que vous, les pharisiens, vous nous avez éduqués. Mais nous, on glorifie le Seigneur. On est heureux que ce Jésus ait transformé la vie de notre fils. Même pas. La peur de l'homme. La peur de l'homme vous empêchera de marcher dans la foi. Vous empêchera de voir les plus belles promesses se réaliser dans votre vie. Vous savez, dans notre vie, nous avons des faiblesses. Chacun d'entre nous, nous avons un territoire de faiblesse. Et souvent, vous voyez par exemple, quand quelqu'un est blessé dans son âme, comme par hasard, vous allez voir quelqu'un qui va lui dire une parole inappropriée, qui d'un seul coup va redéclencher tout son passé. Quelqu'un a un problème physique, et comme par hasard, il tombe sur quelqu'un qui va mettre le doigt sur son problème physique. Et vous savez, ça blesse les gens, ça. Et parfois, par exemple, quelqu'un n'a pas d'enfants. Et à chaque fois, par exemple, ils sont invités chez quelqu'un. La question. Vous avez combien d'enfants? Et vous savez, le diable souvent utilise des personnes malheureusement pour nous piquer là où ça fait mal. Parce que finalement, le diable, si tu arrives à fermer bien les portes et les fenêtres, si tu arrives à fermer les fenêtres et les portes et à guérir de ce là où tu dois guérir, il est coincé. Parce que si tu fermes bien les fenêtres et les portes de ta personnalité, de ton passé, de tout là où le diable peut avoir un, je dirais quelque chose qui, où il peut te piquer quelque part.
Tu arrives,
il y a un problème que tu as particulier. Et l'ennemi essaie d'envoyer quelqu'un.
Mais ça marche pas. Si ça
marche pas,
au
bout d'un moment, il renoncera à te déranger sur ce domaine-là. Par contre, si ça marche, comme par hasard, tu vas rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment. Tu vas dire la mauvaise parole. Ou tu vas faire la mauvaise action. Tu vas déclencher en toi quelque chose. Et si vous avez la peur de l'homme, la peur de l'homme vous paralysera. À chaque fois que vous voudrez faire des pas de foi, d'un seul coup vous allez avoir quelqu'un qui va se présenter.
Il va
dire non. Avec ça, jamais. Tu ne feras jamais ça. Je
ne
suis pas d'accord avec ça. Ou alors il va te donner une parole d'incrédulité. Il va t'impressionner. Et hop, tu vas t'arrêter. Et tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer à côté de la gloire de Dieu dans ta vie.
Frères
et sœurs, si nous voulons marcher dans la foi, nous devons être des gens de conviction. Un des ennemis de la foi, c'est la peur de quand dira-t-on. C'est la peur de la moquerie. J'ai rencontré quelqu'un récemment
et
je l'exhortais à l'évangélisation.
Et
cette personne disait, oui, mais quand on a parlé de Jésus à tout le monde, vous savez, quand on reçoit Jésus, voilà ce qui se passe. En fait, nous avons des cercles relationnels. Le premier cercle relationnel que nous avons, c'est le cercle familial. Le deuxième cercle que nous avons, c'est le cercle d'amis. Puis après, le troisième cercle, ça peut être des gens un peu plus éloignés, comme des collègues, donc des gens qu'on subit parce qu'on est au travail. Ou si vous êtes en train d'étudier dans tel ou tel endroit, bah, c'est les gens qui sont dans votre classe. C'est vos voisins. C'est des gens un peu qui s'imposent à nous. Plutôt que c'est que nous qui avons désiré avoir une relation avec eux. Donc, quand on donne sa vie à Jésus,
et
bien, au départ, on témoigne de notre foi à notre famille. Mais quand on a témoigné de A jusqu'à Z, ils ont tout entendu sur Jésus. On a juste besoin de prier maintenant. On ne sait plus à peine qu'on leur dise « Jésus t'aime, viens, je vais te dire l'évangile » parce qu'ils connaissent déjà.
Donc,
ton cercle de, je dirais, familial a déjà été épuisé. Après, tu as ton cercle d'amitié.
Ou
là, tu vas parler du Seigneur aussi. Et ça va être la même chose. Au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Puis, un certain nombre de gens que tu fréquentes, de gré ou de force, par ton boulot, etc. Tes voisins, et après ça s'épuise. Et il y a des gens, au bout d'un moment, ils arrêtent de parler de Jésus, de témoigner de leur foi. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ils commencent à avoir peur des autres. Ils disent, oui, mais j'ai parlé, ils se sont moqués de moi. Un jour, je me suis retrouvé là, et vraiment, on m'a fait de l'opposition. On m'a fait des sales coups au travail, etc., etc. Et là, tu commences à quoi faire? À avoir peur de ce qu'on va dire de toi. Et là, la peur de l'homme commence à paralyser ta foi. Mais fais attention à cela. La peur de l'homme est quelque chose qui nous amènera à être paralysés dans la foi. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. Tu dois faire confiance à ton Seigneur. Et quand tu marches dans la conviction et dans la foi, tu dois dire
kwizera.
C'est comme ça et c'est pas autrement. Ce sont mes convictions. Et tu dis à la personne, avec la politesse bien sûr, tu lui dis, tu es venu trop tard pour me convaincre du contraire. Parce que tu marches dans tes convictions. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Et ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de détruire ta foi. Tu dois apprendre à marcher dans tes convictions. Et à faire taire les gens en disant, vous êtes venu trop tard pour me convaincre. C'est pas maintenant que vous allez pouvoir renverser ma foi. Il il fallait venir plus tôt, ça aurait peut-être marché.
Que
quelqu'un dise amen.
Amen.
Faites attention à cela, frères et
sœurs.
Alors une autre chose aussi, c'est le manque de tenir sur notre confession. C'est un autre ennemi, ça. Dans Hébreux 10, verset 23, il y a quelque chose qu'on doit bien savoir au niveau de la foi.
Hébreux
chapitre 10, verset 23. Retenons ferme la profession, ou d'autres traductions, des meilleures traductions, ont la confession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous vous rappelez tout à l'heure celui qui avait reçu la parole sur un chemin où il y avait une couche de terre et en dessous des cailloux. Il a reçu la parole de Dieu. Ça a commencé à pousser. Et la Bible nous dit qu'il va croire pour un temps. Mais il manque de persévérance. Manque de persévérance. Quand tu veux vraiment marcher dans la foi, il va falloir que tu apprennes à confesser. Et à confesser. Et à parler.
Et à parler
le résultat.
Kuvuga,
ne te laisse pas impressionner par les circonstances qui ne bougent pas. Quand tu parles la parole de Dieu, tes paroles sont créatrices. Tes paroles amènent le résultat, parlent le résultat. Et la Bible nous dit ici de retenir fermement notre confession. Tu dois être ferme de continuer à parler la même chose. Confesser, ça veut dire la même chose, dire continuellement la même chose. Ça vient de deux mots. Ça vient du mot grec logéo qui veut dire. Qui veut dire simplement dire, et
homo,
qui veut dire la même chose. C'est-à-dire continuer à dire la même chose. C'est-à-dire ne pas changer de langage. Apprends à être ferme dans ce que tu dis. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ma foi et personne ne la changera. C'est le résultat que je veux voir et je le verrai avec mes yeux. Il faut être ferme dans la foi. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il
ne
faut pas se laisser pousser dehors par les circonstances. Il faut dire c'est comme ça, ma décision est prise. Le résultat est déjà marqué d'avance. Et ce que je crois, c'est ce que je vais voir. Mais je continuerai jusqu'à ton
jour.
Ça, c'est la foi, frères et sœurs. Mais il y a trop de gens sur la route qui se découragent. Rappelle-toi que ta vie est un marathon. Tu te lèves tous les jours. Tu te couches tous les jours. Tu as un certain nombre d'heures tous les jours. Donc tu dois profiter pour apprendre à parler les choses de Dieu. Que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Mais tu dois être déterminé pour ça. Si tu abandonnes ta confession, si tu laisses tomber au bout d'un moment, tu ne verras pas le résultat. Et la Bible est très claire sur la confession. Apprendre à confesser et à demeurer ferme dans notre confession. C'est-à-dire, nous confessons le résultat. Confesser notre espérance, c'est confesser le résultat. Ce n'est pas confesser les circonstances. C'est dire, voilà ce que je veux. Moi, je confesse la parole de Dieu. Je confesse que cette salle est terminée. Je confesse qu'elle est remplie de gens. Je confesse que nous implantons des églises partout. Je confesse beaucoup de choses. Parce que je le crois. Je confesse les finances régulièrement. Quand il y a des obstacles dans les finances, je continue à confesser. Il faut apprendre à confesser ces choses. Parce que si tu n'apprends pas à confesser ces choses, tous les obstacles viendront. Et tu auras mille et une façons de te détourner de ta course.
Tu
as une course de foi à courir. Tu dois regarder devant. Mais constamment, quand tu cours, il y a quelqu'un qui fait hey, regarde par là. Oh, tu es fatigué. Oh, tu ne vas jamais y arriver.
Oh,
regarde, le chemin est encore très long. T'as mille et une choses, mille et un obstacle. Et t'as une grosse pierre devant toi. Et t'as un arbre qui est tombé sur ta route. Et t'as toutes sortes de choses qui mettent des bâtons dans les roues. Non, apprends à être ferme dans ce que tu dis avec ta bouche. Il faut que tu apprennes à être ferme, à déclarer ces choses. Oh, j'ai craint que la maladie revienne cette année. Tais-toi. Et dis plutôt au Seigneur merci. Parce que cette saleté ne reviendra jamais dans ma vie. Je suis déterminé, parle ces choses. Et la puissance de Dieu viendra. Elle se manifestera. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dans leur confession. Qui, au bout d'un moment, changent de langage. Et celui qui change de langage, il n'accomplit rien dans le Seigneur. Peu importe ce que Dieu t'a dit. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est ce que Dieu dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a dit. Parce que le Seigneur dit, c'est facile à dire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas réaliser de ce qu'il t'a dit? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne me concentre plus sur ce que Dieu me dit directement. Parce que Dieu parle, et c'est gloire à Dieu, Dieu parle. Et je me dis, Seigneur, si tu me dis quelque chose et que je suis enterré avec la promesse alors que rien n'est fait, ça ne m'intéresse pas. Et je sais que ça dépend de notre responsabilité. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas accomplir de ce que Dieu t'a dit. Parce que ça, tu dois marcher dans la foi. Tu dois savoir confesser la parole. Tu dois savoir être transformé. Tu dois savoir monter dans cette école de foi. Parce qu'il y a une autre chose qui est un obstacle. C'est le fait, un autre obstacle, de ne pas comprendre que la foi est une école. La foi est une école. Et il faut que tu comprennes ça. La foi n'est pas quelque chose que tu vas acquérir grandement, avoir une grande foi en un jour. Du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça, je le vois avec beaucoup de chrétiens. Les gens ne comprennent pas qu'il y a des il y a l'école de la foi, donc il y a des étapes dans notre vie. J'ai beaucoup aimé un jour ce que Kenneth Hagin a dit. Il a dit, au début de mon ministère, j'avais du mal à croire pour $1. Et à l'époque où il disait ça, il était peut-être à 15 ans, 20 ans avant de mourir. Quand je l'ai entendu faire cette déclaration-là. Mais il disait, maintenant, si j'ai besoin d'un million de dollars, c'est pas compliqué. Ma foi est tellement formée maintenant que pour moi ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du chemin dans la foi. Il y a eu des étapes par lesquelles il est passé. Et c'est une école. Si aujourd'hui tu as un problème avec un mal de tête, le jour où tu auras sérieusement des symptômes de cancer qui viendront contre toi, tu auras du mal. Et c'est là où ça risque de mal tourner. Le jour où il va y avoir quelque chose de financier qui va venir contre toi, alors que tu n'as pas construit une plateforme financière, tu auras du mal ce jour-là. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. La foi fonctionne avec des étapes. Dieu veut t'amener d'abord à une étape pour que tu apprennes à marcher dans la foi. Puis une autre étape. Et tu grandis dans la foi. Tu apprends comment ça fonctionne. Tu apprends à faire confiance au Seigneur. Tu apprends à te fixer des objectifs de plus en plus grands. Tu réaliseras de plus en plus grand. Mais tu ne pourras jamais réaliser quelque chose de très grand si déjà tu n'es pas capable de réaliser petit dans le Seigneur au départ.
Mais
moi, je vois beaucoup de chrétiens, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à démarrer dans la foi.
Soit parce qu'ils ne
sont pas enseignés, ou soit parce qu'ils veulent... Ils commencent par des choses qui sont beaucoup trop grandes par rapport à leur foi. Non, apprends à te positionner là où tu es capable de croire. Et apprends à tenir fermement sur ça. Et à passer l'examen. À remplir tes objectifs. Et là, tu grandis. Là, tu vois plus loin. Là, tu vois beaucoup plus loin. Et tu vas à la prochaine étape. Et quand tu réalises la prochaine étape, tu vas encore à la prochaine étape. Parce que beaucoup de gens se découragent. Parce que Dieu leur donne des grandes visions. Mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent passer d'abord par l'école de la foi. Ce qui fait qu'ils n'accomplissent rien. Au bout de 5 ou 10 ans, ils sont complètement découragés. Ils réalisent rien. Ils n'accomplissent rien. Et puis, au bout d'un moment, bah, ils vivent une vie chrétienne en disant, oui, Dieu m'a dit. Ah ouais, Dieu m'avait dit. Hein. Et ils vivent avec le Dieu leur a dit. Mais ils n'arrivent pas à passer par les premières étapes de la foi. Apprends à te fixer des objectifs sur des choses qui peut-être encore te dérangent aujourd'hui. Comme je le disais, qui sont peut-être des choses du passé. Et aussi, commence à t'ouvrir un avenir.
Hein.
Par exemple, pour les finances, c'est comme ça que ça fonctionne. Au début, c'est difficile si tu sors d'un milieu de pauvreté ou de mauvaise gestion ou de toutes sortes de problèmes.
Hein.
Année après année, apprends à fixer des objectifs et tu te tiens sur ces objectifs par rapport à ta foi et tu vas commencer à remplir ces objectifs. Mais par rapport à ta foi, je dis, parce que quand tu commences à dire oui, je crois ça, je crois que d'un seul coup il va se passer ça. Je parlais avec un pasteur récemment
et
ce pasteur veut construire. Il est à l'étranger, il veut construire un truc qui vaut environ 2 millions de dollars.
Donc,
une église qui vaut à peu près 2 millions de dollars. Il a un dépôt, un projet. Et vous savez, c'est difficile parfois à un pasteur de dire la vérité à un autre pasteur.
Mais
tous les plans étaient faits avec l'argent des autres. Et bon, j'essaie d'être diplomate dans ces cas-là parce que vous savez, vous pouvez pas dire directement aux gens, bon les gars, arrêtez tout ça, il faut que vous reveniez aux réalités. Parce qu'ils pensaient que bon, parce qu'ils connaissaient un tel et un tel et un tel, ils allaient leur donner de l'argent.
Et
j'aurais dit non, ça fonctionne pas comme ça.
D'abord,
commencez vous-même. À croître dans vos finances au niveau de l'église. Parce que les gens prospèrent parce que tu donnes un message. Et après, tu commences à mettre de l'argent de côté. À créer un peu un capital. Et puis Dieu viendra te rencontrer là où est ta foi. Mais eux, au départ, ils espéraient une chose. Qu'un gros donateur arrive. Et franchement, ce pasteur connaît de très gros ministères. Et puis, qu'il lui fasse un gros chèque de 1 ou 2 millions de dollars, et voilà, ils vont construire l'église. Alors, ils étaient super excités sur leur projet, alors je ne voulais pas les décourager. Mais je ne crois pas que Dieu puisse faire des choses comme ça. S'il
n'y
a pas déjà une base de foi quelque part.
Hein.
Et aussi que le peuple de Dieu se mette à gérer correctement les choses. Ce genre de témoignage qu'on peut entendre où quelqu'un va donner une super grosse somme d'un seul coup, ça arrive. Mais c'est 1 sur 10 millions. Bien sûr, les gens pensent que peut-être que le 1 sur 10 millions, ça va être eux. Mais en général, les 9 999 999 sont très déçus.
ariko rero kenshi usanga ibihumbi amajana miliyoni icyenda n'ibihumbi amajana icyenda mirongo icyenda n'icyenda n'icyenda usanga uri muri aho.
Apprends à accrocher ta foi là où elle est, là où tu en es dans ton niveau de foi.
N'ukumenya ngo nkwiye guhagarara mu kwizera aho ngeze mu kwizera.
Sinon tu seras très déçu.
Atari ukuzosanga ubabaye.
Tu vas venir avec des attentes qui vont au-delà de ta foi.
Usange uje mu kwitega ibintu birenze
ukwizera kwawe. Tu vas tomber par terre.
Hanyuma usanga uguye hasi.
Et ça sera pas un défi de foi que tu auras eu, ça, c'est en fait quelque chose que tu n'auras pas compris.
N'uzosanga rero ari ikintu kikunaniye kurengana mu kwizera ahubwo ni ikintu
cyo. On vit souvent des échecs dans la foi parce que on se fixe certains objectifs qui n'ont aucun rapport avec la mesure de foi que nous avons.
Hari rero mu kwizera usanga twintumbero zidahuye n'inge no kwizera kwacu kungana.
Si tu as la foi pour de très grandes choses.
Nimba ufise ukwizera ko ibintu bikomeye.
Tu vas les voir sous tes yeux.
Uzobibona n'amaso
yawe. Très souvent ta foi va être testée.
Ariko hari igihe ukwizera kwa
kuzo. Et si c'est pas la vraie foi dans laquelle tu es.
Kandi nimba utari mu kwizera kukuri.
Si c'est pas la vraie foi.
Nimba utari kwizera kukuri.
Tu vas te retrouver par terre. Et déçu. Il y a des gens qui ont vécu de grandes déceptions. Ils ont mis la barre trop haut par rapport à leur foi. Et paf, tout est tombé par terre. Ils se sont retrouvés dans des grosses difficultés. Et après, ils ont accusé Dieu. Dieu n'est pour rien. Mais rappelez-vous que Jésus parle quand il dit à ses disciples. J'allais dire à ses étudiants, à ses disciples, mais c'était des étudiants de la foi.
Hein.
Il leur dit à plusieurs reprises, gens de peu de foi, littéralement de petite foi. Littéralement dans le grec, c'est d'une petite foi. Gens qui avaient une toute petite foi. Il leur disait à un certain moment, en fait, vous vous inquiétez même pour le manger, pour le boire, gens de petite foi. Un jour, Jésus commençait à leur dire, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et les disciples commençaient à se dire, ah, il nous dit ça parce qu'on a oublié d'amener du pain. Et Jésus leur dit, ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes en train de méditer parce que vous avez amené peu de pain et vous vous demandez comment on va manger. Voyez, une fois, ils étaient, vous vous souvenez, on a étudié ce passage. Ils n'ont pas réussi à chasser le démon du fils qui était épileptique. Et Jésus leur dit, gens de peu de foi, littéralement, qui avaient une petite foi. Dans la tempête, c'est pareil. Jésus est là, il dort à la poupe du bateau. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples s'affolent parce qu'il y a une tempête qui se lève. Et ils réveillent Jésus et leur dit, est-ce que tu t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr? Jésus ne s'inquiétait pas. Est-ce que le propriétaire de la terre, le créateur des cieux et de la terre, pourrait périr dans une petite tempête? Jésus était dans leur barque, donc s'il périssait, Jésus allait périr aussi. Et en plus, il pose cette question, Seigneur, tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Oui, parfois, quand on manque de foi, on fait des déclarations stupides au Seigneur. Seigneur, tout est perdu. Nous périssons, Seigneur.
Mais
attendez, si le bateau s'était retourné, ils auraient tous coulé, Jésus inclus, me semble-t-il. Et ils ont fait cette déclaration. Et Jésus leur dit, Jésus se lève, vous savez, il calme la tempête. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous avez peur, gens de peu de foi? Donc c'est clair que notre foi peut être petite,
ou peut être grande.
Donc apprends à te fixer des objectifs selon la mesure de foi que tu as. C'est ce que nous expliquerons plus tard.
Dans
les prochains cours,
la mesure de foi.
Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.